Passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va parler de...
Ah mais attends, j'en...
Ah, parce que vous ne voulez pas filer les fils.
Je sais pas quoi on va parler.
Hop là. Eh ben, du coup, on va parler... Bon, on va commencer par deux petites brèves. Et ensuite, on va parler... Alors, je vous préviens, ça va pas être très joyeux comme Canu Info. On va parler des nouveaux massacres qui ont eu lieu au Burkina.
Sur les suites du séisme au Kurdistan.
Ensuite, on aura un petit morceau de musique
et pour ensuite... nous remettre les idées en place.
Et ensuite, on aura la rubrique « Il faut que ça sache » qui, on doit bien l'avouer, va parler encore de mort.
Et t'as oublié qu'on va parler aussi des producteurs de pesticides prêts à tout pour vendre leur merde.
Mais si tu veux, on peut le faire à la fin après, il faut que ça se sache.
Comme ah, mais je croyais que c'était toi qui avais dit ça. Non, c'est pas toi. Je croyais qu'on avait dit, pardon. Eh ben oui. Bref.
Oh, que ça ne tienne. On fait notre conférence de rédaction en direct.
Voilà. Et voilà. Eh ben, on commence par les brèves.
Ah oui, c'est moi. Eh ben, écoutez, 32 jours de sans pluie notable en plein hiver, ça n'était jamais arrivé depuis qu'on compte les jours et la météo. Alors, visiblement, la pluie notable, si j'ai bien compris, a fini par tomber sur Lyon cet après-midi pendant qu'on préparait le Canu Info. Mais autant dire qu'elle ne suffit pas tout à fait à remettre les pendules à l'heure des stocks d'eau nécessaires. Parce qu'après un été parmi les plus secs jamais enregistrés, on est en train de se faire un hiver globalement sans pluie. Autant dire que les nappes phréatiques sont en sacré manque et que ça commence à inquiéter un peu tout le monde. Parce qu'a priori, l'été prochain, ça va être trash de chez trash. Le ministre de la Transition écologique, il s'appelle Christophe Béchu. Vous aviez déjà entendu parler, vous ?
Non, oui. Pas du tout. Ah. Bon, c'est un petit enjeu, en même temps, c'est normal. Qu'on...
Oui, c'est ça. Donc, Christophe Béchu présidera demain le premier comité d'anticipation et de suivi hydrologique, qui est un truc qui se passe un peu quand ça risque de faire sec, mais il n'y en avait jamais eu aussi tôt dans l'année. Il va falloir décider qui aura droit à de la flotte s'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, est-ce que ça sera votre robinet ? Est-ce que ça sera l'agriculture ? Rappelons que les cultures qui ont le plus besoin d'eau, c'est le maïs qui sert à nourrir les animaux pour faire de la viande que mangent les viandistes. Ou est-ce que ça sera les golfs des riches ? On peut faire confiance à ce ministre macronien dont on ne connaît pas bien le nom pour faire les bons choix.
Allez, ce sera peut-être là. Bonne nouvelle du Canu Info, la fac de Lyon 2 est bloquée pour le troisième jour consécutif. Les étudiants et étudiantes de Lyon à Bron ont bloqué la fac contre la réforme des retraites, la loi Darmanin et pour le repas du Crous à 1 euro pour tout le monde. Les étudiants et étudiantes invitent qui le veut à rejoindre l'AG qui aura lieu demain, entre autres à midi sur le campus de Bron, amphi F1. Au Burkina.
Et allez, on commence par la rubrique. Il y a des pays qui sont vraiment dans des situations de merde, et même il y a des pays qui sont vraiment dans des situations de merde, et la France n'y est pas pour rien. Et on va donc parler effectivement du Burkina Faso. Alors j'en parle ici des fois, et cette semaine il y a un sacré paquet de choses différentes à dire. Aucune de ces choses n'est, autant le dire, une bonne nouvelle. Alors, vendredi dernier au Burkina, au moins 50 militaires burkinabés ont été tués dans le nord du pays au cours d'intenses combats, ce qu'ont dit les autorités, contre des djihadistes. On peut rappeler ici que dans la plupart des cas et des pays, les militaires qui se font tuer, bah, c'est juste qu'ils font leur boulot dégueulasse pour le boulot dégueulasse pour lequel ils sont payés et que c'est rare dans ce Canu Info qu'on ait très envie de les plaindre. Au Burkina, c'est un petit peu différent quand même. 40% du pays sont sous le contrôle des djihadistes et ces djihadistes, ma foi, une grosse partie de ce qu'ils font au Burkina, c'est de tuer des gens. De tuer assez systématiquement des gens, ils débarquent dans les villages et juste ils butent à peu près tout le monde. face à ça. Et depuis, alors ils font pas que ça, ces djihadistes, hein, ils font aussi, en fait, ils ont intérêt de contrôler une zone qui est à cheval sur des frontières de trois pays, parce que ça leur permet de faire toute une série de trafics qui leur permettent de se financer. Mais pour contrôler cette zone, bah, il la vide, et pour la vider, il tue des gens, et comme ça, il tue un village, puis comme ça, les quatre villages autour, ils se barrent. Ce qui fait aussi qu'il y a énormément de déplacés au Burkina. Face à ça, et donc depuis 2015, qui est le moment où ça a vraiment commencé le djihadisme au Burkina, le pays, l'armée, le gouvernement, les milices citoyennes, tous des trucs que théoriquement on n'aime pas bien, mais au Burkina c'est particulier, se retrouvent dans une situation où il y a des gens à protéger et où il est plus important que tout d'arrêter ce cycle des massacres. Mais depuis 2015, gouvernement, armée, milice citoyenne, y arrive pas très bien, il faut bien dire. Et à cette liste, il faut ajouter, en tout cas jusqu'à samedi dernier, l'armée française, qui est mais qui était présente dans le pays depuis 2009 et qui, à partir de 2015, s'est donné pour mission de combattre ces terroristes au Burkina. C'était l'opération Sabre, qui a été plus ou moins mariée avec l'opération Barkhane, mais plus ou moins. Mais en tout cas, l'armée française n'a pas non plus obtenu des résultats bien notables. Et donc jusqu'à samedi dernier, parce que le président actuel du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, a fini par les foutre dehors, les militaires français. L'armée de l'ancienne puissance coloniale, qui se comportait comme un peu partout en Afrique, comme une armée coloniale, justement, avait, ma foi, quelques casseroles qui la rendaient pas très sympathique pour les Burkinabés. En plus d'être là et d'obtenir aucun résultat visible dans la lutte contre les terroristes, il faut bien dire que c'est cette armée, par exemple, qui a permis la fuite du président Blaise Compaoré au moment où ce président a été viré par une révolution en 2014. Alors qu'il est, un certain nombre de gens au Burkina trouvent que ce serait pas mal que Blaise Compaoré soit en prison, ou en tout cas soit passé devant un tribunal, il y passera jamais, parce que les militaires français l'ont exfiltré. On peut, alors ce que l'état-major français continue à nier, mais par ailleurs, par exemple, l'article, un des articles que j'ai tout à l'heure, qui était un article du Monde, ma foi, ne prenait même pas la peine de mettre un conditionnel devant cette affirmation. C'était vraiment évidemment que c'est les militaires français qui ont fait sortir Blaise Compaoré. On peut ajouter, toute une manière de faire la guerre dans un pays qu'on considère comme un pays où de toute façon les gens sont quand même moins importants que s'ils étaient français, européens, blancs, qui fait que, par exemple, on a cette histoire d'un mariage dans un bled de la Brousse qui avait été bombardé, ce qui avait fait pas mal de morts. Les seuls avions susceptibles de voler dans ce coin étaient les avions militaires français. L'état-major français avait déclaré en gros que non, on n'a fait sortir aucun avion ce jour-là. D'ailleurs, on n'était pas là. D'ailleurs, c'était pas un mariage. C'était bien une réunion de terroristes. D'ailleurs, on n'a pas largué de bombe. D'ailleurs, notre bombe n'a fait finalement aucun mort. Et d'ailleurs, on n'a jamais entendu parler de cette histoire. Les explications de l'armée française étaient vraiment à peu près de ce niveau-là. Bref, mettre les militaires français dehors, ça a été une grosse demande populaire depuis 2 ans déjà, et cette demande a été un des moteurs des 2 coups d'État à 8 mois d'écart. Cette demande et l'incapacité des présidents successifs à atteindre quelques résultats que ce soit dans la lutte contre le terrorisme. Par où j'avais commencé ? Ah oui, donc au moins 50 militaires tués vendredi dernier et encore au moins 15, mais sans doute plutôt plusieurs dizaines dans la nuit d'avant-hier à hier. Le président actuel est président depuis 3 mois et déjà la pression commence à être un petit peu sérieusement là pour qu'il arrive à des résultats et qu'il y arrive vite. Au début du mois, il avait donné une longue interview télévisée pour parler de sa stratégie, de ses résultats, plutôt pour l'instant de l'absence de ses résultats. Le titre de l'éditorial du journal L'Observateur Palga qui rendait compte de cette interview à la télé était « Commencez donc cette fichue guerre, mon capitaine », puisqu'il avait passé une partie de l'interview à dire « Pour l'instant, on n'a pas encore de résultats parce qu'on n'a pas encore réellement commencé la guerre ». Et l'article expliquait que le président avait trouvé beaucoup de raisons au fait que la situation militaire progresse, elle, pas beaucoup. Alors c'est le Burkina, c'est toujours un pays qui est quand même extrêmement étonnant. C'est-à-dire que là, on en est à 2 coups d'État successifs. Et du coup, on peut se dire, ok, une dictature militaire un peu classique ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le cas, puisque là, du coup, le premier article sur lequel je tombe d'un journal burkinabé publié au Burkina est un article qui dit que le président, là, franchement, il faut qu'il sorte les doigts du cul, quoi. Et donc, voilà, Cet article expliquait que le président avait trouvé beaucoup de raisons au fait que la situation militaire progresse pas beaucoup. Je cite l'article. Si ce n'est pas la faute de la France, ça serait celle du G5 Sahel. Alors, il est vrai, en mort clinique, de la CDAO, qui ne ferait pas preuve de solidarité sous-régionale, des journalistes, qui s'apprêtent la cohésion des troupes combattantes, ou même de ces vampires de commerçants qui renaclent à louer leurs camions-remorques à des prix sociaux pour le transport des vivres dans les zones sous blocus. En oubliant au passage que la précédente opération avait donné lieu à des surfacturations indécentes, non pas de la part des commerçants, mais de la part des militaires, dans des circonstances qui n'ont pas encore été tirées au clair depuis. Le président, pendant cette interview, a aussi expliqué sa stratégie. En plus de l'armée, il enrôle des civils et il les enrôle en nombre. Et c'est donc ce qu'il expliquait, c'est que la guerre n'avait pas encore réellement commencé parce que les civils allaient incessamment sous peu être prêts, ces fameux civils enrôlés, mais ils ne l'étaient pas encore. Donc ces civils, ça s'appelle les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Et ces volontaires pour la défense de la patrie existent en réalité depuis déjà plusieurs années. Et pas toujours pour le meilleur. C'est parce qu'il faut bien se dire que des gens qui sont, c'est ça, des sortes de milices citoyennes qui vivent dans des zones où on peut se faire buter par des djihadistes un peu n'importe quand, donc qui ont une certaine nervosité, à qui on donne des armes et pas beaucoup de formation, bah, ces gens ont un peu forcément une certaine tendance à faire une justice expéditive. Et c'est-à-dire à faire une justice expéditive, préventive éventuellement, mais aussi, par exemple, à venger un massacre par un autre massacre. Et par exemple, s'il y a quelqu'un, s'il y a un village qui, où il y a des gens qui sont fait tuer par des djihadistes, eh ben, ces VDP sont capables d'aller dans un village de Peul en particulier et de tuer à peu près tout le monde parce qu'ils se racontent en tout cas que beaucoup de djihadistes sont des Peuls. Résultat, tous les Peuls seraient un peu bons à tuer pour combattre le djihadisme, ce qui est un calcul un peu problématique quand même. Bon, là, le président parle de l'enrôlement de 50 000 VDP. Alors, je ne sais pas bien combien il y en avait jusqu'à maintenant, mais c'est un peu comme... c'était vraiment très très peu. Là c'est vraiment l'explosion de ce truc-là. Par exemple, certaines catégories de fonctionnaires sont enrôlées d'office. Alors, visiblement, les gardiens de prison, par exemple, sont d'office enrôlés dans les VDP. Je ne sais pas précisément comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire qu'à des moments, ils lâchent leur poste pour aller se balader dans le Sahel ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ils sont enrôlés d'office, ils sont armés et ils sont équipés dans la foulée. Et avec l'enrôlement de ces milices citoyennes, alors ajoutez donc à la pression mise sur l'armée pour arriver à des résultats rapides, la pression politique, ajoutez à l'autre pression que les militaires peuvent se mettre tout seuls, puisque pendant ce temps, réellement, les djihadistes continuent à massacrer des civils. Donc ça serait une pression psychologique du devoir à accomplir. Et encore une autre pression qui s'exerce sur ces militaires, qui est juste la trouille qu'ils ont, eux, de se faire tuer, puisque les djihadistes, effectivement, ils attaquent des militaires et ils les tuent en grande proportion. Pour l'instant, on dirait que dans la plupart des combats, les djihadistes ont quand même assez facilement l'avantage. Ce qui se passe, on pouvait s'en douter, les bavures, puisqu'il faut bien leur donner un nom, semblent se multiplier, même si c'est généralement dans des zones où l'information est difficile à vérifier. Extrait d'un article du Monde d'aujourd'hui. Depuis des dizaines de jours, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent de violentes arrestations et des exécutions sommaires présumées, attribuées par des sources sécuritaires aux soldats burkinabés. Certaines vidéos visionnées par Le Monde montrent des civils, dont des enfants, les yeux et les mains bandés, face contre terre, au milieu d'hommes en tenue militaire ou civile. Sur une autre vidéo, un burkinabé filme des enfants gisant dans leur sang, certains à moitié nus, à côté de véhicules militaires. Et c'est cet homme qui filme dit « on attend celui qui va bouger et on le tue ». Quelques secondes plus tard, un autre homme en tenue militaire, celui-là, jette une pierre sur la tête d'un des gamins. Bon alors, pour bien complexifier ce que nous, on peut essayer de penser de tout ça, c'est-à-dire en vrai, on a vraiment du mal, rappelons quand même que ces mêmes militaires, ceux qui ont des gamins par terre et qui disent « on attend celui qui va bouger et on le tue », ces mêmes militaires, alors si la vidéo est bien authentique, hein, je veux dire si elle a réellement été filmée il n'y a pas longtemps et réellement dans le nord du Burkina, ces mêmes militaires se battent contre des terroristes qui n'ont pas du tout l'habitude d'attendre celui qui va bouger pour tuer enfants ou adultes.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Cela a déjà plusieurs fois occupé la une de l'actualité. Le séisme qui a touché l'est de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février a été terrible. Des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés. On estime d'ailleurs à 13,5 millions le nombre de personnes impactées par la catastrophe. Si les promoteurs, en collaboration avec le pouvoir turc, n'avaient pas économisé le béton, le fer forgé et autres matériaux pour se partager le fric, le bilan aurait été sûrement beaucoup moins lourd. Les régions détruites par le tremblement de terre sont, pour la Turquie et pour une partie de la Syrie, correspondantes aux zones de peuplement kurde. Alors, le peuple kurde, dont la lutte contre le pouvoir central d'Ankara s'est intensifiée depuis plus de 10 ans et l'établissement d'une région autonome gérée horizontalement dans le nord-est de la Syrie après la victoire du peuple kurde sur l'État islamique. Depuis lors, la Turquie ne cesse d'attaquer militairement les Kurdes en Syrie, au Rojava, en Irak et dans son propre pays où elle les met en prison. Suite au tremblement de terre, toutes les organisations de résistance kurde, armées ou non, ont décrété un cessez-le-feu unilatéral pour mettre toutes leurs forces dans les secours des blessés et dans l'aide humanitaire. Et pour ne pas, d'après leur communiqué, rajouter de la tristesse à la tristesse. Alors comment réagit la coalition islam extrême droite au pouvoir en Turquie et menée par Erdogan? Quelques exemples. Dans la ville de Pazarcık, où le HDP, parti d'extrême gauche de Turquie, avait immédiatement monté un centre de coordination de crise, l'armée est arrivée, plusieurs jours après, a envahi l'association, viré tout le monde et l'a placée sous la tutelle de l'État. À Kobané, au Rojava, ville qui a elle aussi été touchée par le tremblement de terre, l'armée turque a envoyé un drone qui a abattu un commandant des FDS, coalition arabo-kurde, créée pour combattre Daesh. Quant aux zones où se trouve la majorité de la guérilla kurde dans le nord de l'Irak, elles ont été ciblées, rien que pour la journée de dimanche, par 56 attaques d'avions de chasse, chars, obusiers et tout ce qui s'ensuit. Cette série d'attaques fait d'ailleurs suite à une dizaine d'opérations de ce genre qui ont eu lieu depuis le tremblement de terre. Alors les forces de guérilla kurdes ont cependant tenu à déclarer que si elles avaient stoppé leurs opérations armées, elles n'hésitent pas et n'hésiteraient pas à très consciencieusement se défendre.
Et on va s'écouter en petite pause Kazé avec le titre « Le fusil dans l'étui ».
Je marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche. Je rêve de revanche en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche sur les peaux blanches. Lèche les plus riches, prêche les bakchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent. Ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïdes sans remords, aucun et que la fièvre. Leur guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide. J'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart est la cause qu'ils plaident, quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent. Et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède. J'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni aumône, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure. Insultes, lutte, chute, échec et injures. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors moi je sors et m'emmerde à mort. Je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts. sans effort se sauve avant les renforts. La casse et le Delbord, ma race et mon folklore. La crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au bal trap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte. Et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute. Une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte et sa suinte. La crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque. Quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans l'étui. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Gazé, en falche, 2005.
Alors, je vais redire un petit mot pour vous reparler de cette histoire tellement romantique dont j'avais déjà parlé ici et qui fait partie des exemples de la répression du pouvoir turc sur la gauche turque et kurde. C'est l'histoire de Semira Güzel qui, du coup, je vais le re-résumer vite fait, avait été mise en prison parce qu'on avait découvert... elle était députée du HDP et elle a été mise en prison parce qu'on avait découvert sur un guérillero tué par l'armée turque, une photo d'elle qu'il avait placée sur son cœur. Il avait eu une histoire d'amour avec cette femme, avec Semira Güzel. Et ensuite, elle, une fois députée du HDP, elle avait été mandatée pour les pourparlers de paix avec la guérilla. Et à ce moment-là, elle l'avait rencontrée par hasard. C'est à ce moment-là qu'il avait pris sa photo et qu'il l'avait mis sur lui. Et la suite, c'est que quand on a retrouvé sa photo, on l'a destituée de son mandat parlementaire et on l'a mise en prison. Alors hier... La demande de Semira Güzel, médecin de son état, prête à aller porter secours aux blessés, a été refusée.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va parler pesticides.
Eh bien oui, parce que, alors figurez-vous que il se pourrait bien que le lobby des pesticides ait eu recours à un chantage à l'emploi mensonger pour tenter d'obtenir l'abrogation de mesures législatives qui visaient à introduire la production de certains pesticides parmi les plus ultra-trash, leur production sur le sol français. Alors,
c'est pas beau.
Oh non, c'est pas beau. Oh, tu vas voir, c'est pas beau, pas beau. Parce qu'il y a vraiment des côtés. Bon, bref.
Nous dévoile pas tout.
Voilà. Alors, il faut savoir en préalable que figurez-vous que les ces histoires de lobby, c'est un petit peu réglementé, et entre autres que les lobbyistes sont soumis à des obligations déontologiques et que en gros ils n'ont pas le droit de mentir quoi. La loi relative à la transparence de la vie publique, elle dit que les représentants d'intérêt, ça s'appelle, doivent s'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément aux parlementaires des informations erronées, ça veut dire fausses, ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper.
Ben, du coup, ils se sont retrouvés au chômage.
Eh bien, on dirait bien que le truc qui s'appelait avant UIPP, c'est-à-dire l'Union des industries pour la protection des plantes. Bon, les autres, ils protègent les plantes, mais alors, vous voyez comment ils protègent les plantes, quoi. Et qui s'appelle aujourd'hui FITEIS, mais du coup, à l'époque où ça s'est passé, c'était l'UIPP. On dirait bien qu'ils ont, essayé d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément des informations erronées, quoi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était en 2019. En fait, c'était au départ en 2018. Il y avait cette loi sur l'agriculture et l'alimentation qui s'appelait EGalim. Dans cette loi, il y avait un article. Et cet article, l'article 83, prévoyait l'interdiction à partir de 2022. Parce que, quand même, quand on interdit des trucs à ces gens-là, on leur laisse toujours un sacré paquet de temps pour voir venir l'interdiction de la production sur le sol français de pesticides qui sont des pesticides interdits d'usage non seulement en France mais en Europe. Parfois depuis plus de 10 ans parce que c'est des pesticides méga ultra dangereux pour l'environnement et pour la santé. Mais ces pesticides, il y a des pays où on peut continuer à les vendre. Bon, globalement, les pays en développement. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, là où les gens sont pauvres, ma foi, on peut bien leur vendre des trucs qui les tuent et qui tuent leur environnement. On les compte moins, ces gens-là. Et donc, c'est une pratique commerciale que les Nations Unies qualifient d'odieuse, paraît-il. Elle rapporte chaque année des centaines de millions d'euros aux leaders du secteur, qui sont Bayer, Syntagma et BASF. Alors voilà, donc l'article 83 disait « Non, mais là, par contre, il faut arrêter de les produire en France, c'est vraiment trop moche. » Et l'UIPP avait dit quoi ? Non, mais comment ça, interdire de les produire en France ? Ça craint parce que nous, quand même, en faisant ça, on crée des emplois. Et si jamais c'est effectivement interdit, donc l'article était passé en 2018, mais en 2019, c'était le moment pour l'UIPP de demander un amendement à cette loi, puisqu'ils avaient le temps, puisque c'était d'interdire la production en 2022. Donc l'UIPP, un an après le passage de la loi, a dit « Non, non, mais nous, on veut un amendement, parce qu'autrement, c'est la merde pour l'emploi. » Et l'emploi, c'est quand même vraiment très important. Si réellement, on n'a plus le droit de produire ces merdes, ça fait 2700 emplois directement concernés sur nos 19 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, en plus, bien sûr, des emplois directement concernés, plusieurs milliers en amont et en aval de la filière. Au départ, ce lobbying a payé, puisqu'un amendement a été voté en avril 2019, avec le soutien, bien sûr, de la majorité. Vous voyez, la majorité, c'est eux qui interdisent aussi les pesticides sur les tueurs d'abeilles, sur les betteraves. Et 6 mois après les avoir interdits, ils décident de faire une dérogation pour plusieurs années. Parce que quand même, autrement, les betteraviers, ils sont pas contents. Et donc là, bah voilà, là exactement pareil. Du coup, ils ont dit non, mais bon, ok, d'accord. On laisse tout tomber. Qu'ils produisent leur merde, du moins qu'ils les vendent à des Africains, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je ne sais pas si l'argumentaire était réellement explicité comme ça, mais le contenu, c'était à peu près ça.
Ah, on s'en fout, tu peux mentir, tu n'es pas lobbyiste.
Exactement. Moi, je suis pas lobbyiste, je suis journaliste.
C'est pire.
Ouais, c'est
même
ça.
Pas.
Un amendement voté le 11... Ah ouais, c'est ça. Donc, l'amendement prévoit que, non, mais en fait, c'est bon, on laisse tomber cette histoire d'interdiction. Ou alors, l'interdiction sera reportée en 2025, et de toute façon, il y aura des dérogations... Blablabla. Cet amendement qui a donc été adopté avec le soutien de la majorité a quand même été présenté par un sénateur socialiste. Sauf que finalement, ça a payé, mais finalement, ça n'a pas payé parce que, alors ça, attendez, c'est pourquoi ? Je ne sais plus. Ça doit être le Sénat qui a dit non, mais par contre, on ne peut pas. Un autre truc a fait que, en fait, l'amendement a été supprimé. Mais l'amendement a été supprimé. Et du coup, là, maintenant, on est en 2023. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'aucun emploi n'a été supprimé. Mais alors, tellement aucun emploi que sur les 19 sites listés par le syndicat des fabricants de pesticides, il y en a qui ont plutôt réembauché après, parce que voilà, ils sont juste démerdés autrement, quoi. Nufarm, dans l'Eure, a créé 30 nouveaux emplois. Par ailleurs, parmi les 19 sites listés, certains produisaient très peu, voire ne produisaient plus du tout de substances interdites. Leurs emplois ne pouvaient donc pas être remis, ne pouvaient donc pas être mis en danger par l'interdiction. Alors voilà, du coup, les ONG, elles ont dit que quand même là, ça pouvait pas vraiment être une erreur de bonne foi, parce que à la limite, un lobbyiste peut mentir si lui-même il sait pas qui ment, enfin comme n'importe qui quoi, il peut dire un truc en étant persuadé que c'est vrai. Mais là, bon, par contre, il avait vraiment aucune chance d'être persuadé que c'était vrai. Alors écoutez, on va voir ce qu'en pense la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Mais en tout cas, sachez quand même que ce truc a beau être interdit, en 2022, les fabricants de pesticides ont encore profité de failles dans la législation, parce que les législations sont quand même faites pour aussi de cette manière, pour exporter encore près de 7500 tonnes de fongicides, herbicides ou insecticides interdits en Europe. Ils les ont exportés principalement vers le Brésil et vers l'Ukraine, parce que bon, c'est vrai qu'en Ukraine, on peut dire que les gens ont toujours des chances de mourir plus vite d'autre chose que des pesticides qu'on leur envoie.
Écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à exploiter.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Contre la magie. Alors, en 2019, 38 personnes vietnamiennes ont été retrouvées asphyxiées dans un camion à Londres. La même année, en Autriche, près de la frontière hongroise, 70 corps décomposés ont été retrouvés sur le bas-côté de l'autoroute. Cette fois-ci, c'est 18 personnes qui ont été retrouvées mortes dans un camion laissé à l'abandon dans un village près de Sofia en Bulgarie. D'après les informations recueillies, le camion transportait une cinquantaine de personnes cachées sous des fagots de bois. D'après le site Infomigrant, parmi les survivants et survivantes, quelques-uns ont pris la fuite et 14 ont été transférés à l'hôpital, dont 8 dans un état grave. Les points de passage se faisant de plus en plus rares et donc de plus en plus dangereux pour arriver en Europe, les personnes souhaitant franchir une frontière sont obligées de prendre de plus en plus de risques. Depuis quelques mois, la Bulgarie est devenue un point de passage à sa frontière avec la Turquie, alors même que les deux pays sont séparés par un barbelé de 234 km de long, auquel on ajoute les nombreuses violences commises par les gardes frontières sur place. En décembre 2022, Le Monde, en partenariat avec Lighthouse Report, ont publié une enquête révélant l'existence d'un lieu de détention illégal utilisé par les gardes frontières bulgares, dans lesquels les exilés y sont enfermés dans une cage. D'après l'enquête, au moins 34 personnes ont été enfermées dans cet abri entre le 15 octobre et le 25 novembre 2022. Bien évidemment, Frontex nie avoir été au courant de ce centre de détention illégale qui ressemble plus à un cabanon. On pourrait les croire s'ils se situaient un peu au milieu d'une en plein milieu d'une forêt par exemple, et donc c'était pas spécialement sur un lieu de passage des agents de Frontex. Or, ils se situent à quelques mètres des bureaux de la police aux frontières bulgares qui abrite un lieu de détention lui officiel. Et Frontex, il y a une forte implantation puisqu'ils ont 10 agents présents sur place. Le Monde a pu avoir en sa possession plusieurs clichés de véhicules de Frontex se situant à quelques mètres du cabanon illégal. Sur les vidéos, quand vous voyez la gueule du truc, c'est sûr que ça pose question. Je veux dire, c'est évident que les agents de Frontex ne pouvaient pas ne pas se poser de questions. Mais en tout cas, rassurons-nous, Frontex a diligenté immédiatement une enquête interne. Concernant le camion retrouvé en Bulgarie, 6 personnes ont été mises en examen samedi. Chaque passager et passagère ont dû payer 7000 euros pour le passage. Le chauffeur du camion a lui pris la fuite quand il a entendu des bruits sourds venant de son chargement, et c'est quand il a découvert les corps morts asphyxiés qu'il a pris la fuite. D'après un rapport du collectif d'ONG Border Violence Monitoring Network, paru le 8 décembre, les violences commises par les gardes frontières dans cette zone sont en forte augmentation. Les ONG ont recueilli le témoignage de 733 migrants et migrantes qui ont tenté de rejoindre l'Europe entre 2021 et 2022. Et ils ont pu constater que les gardes-frontières utilisaient des tactiques de dissuasion, comme ils disent, entre guillemets, violentes, comme des passages à tabac prolongés, le rasage des têtes, le déshabillage forcé et des agressions sexuelles. À chaque point de passage important, on retrouve le même type de comportement de la part des gardes-frontières, que ce soit en Libye, en Turquie, en Grèce, au Maroc ou en Hongrie. Les barbelés n'empêchent jamais les personnes de passer, cela a juste pour effet de concentrer les exilés à certains endroits et donc d'augmenter les violences qu'ils et elles subissent. Et on continue avec des personnes mortes à la frontière. En 2 mois, 5 personnes sont mortes à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La dernière est une Éthiopienne de 28 ans qui avait disparu depuis une semaine. Elle s'est retrouvée seule dans la forêt alors que son mari et une autre personne de son groupe sont partis chercher de l'aide car elle était affaiblie. Or, les deux hommes ont été interpellés et renvoyés à la frontière biélorusse par les gardes frontières polonaises. Aucune aide ne sera dépêchée pour tenter de la retrouver. Et c'est donc deux personnes d'une ONG qui est présente sur place et qui arpente un peu la forêt dans cette zone de passage, qui est tombée sur la personne parce que des proches d'elle avaient lancé un signalement parce qu'ils avaient plus du tout de nouvelles de cette personne. Et donc, pour finir cette rubrique, dans la rubrique « On se réjouit de pas grand-chose », en Italie, le tribunal de Catane a jugé illégal le décret adopté fin 2022 par le gouvernement italien qui décrétait accepter uniquement les débarquements de migrants les plus vulnérables après une opération de sauvetage en mer. Le tribunal a déclaré qu'il est, je le cite, « Il est clair que parmi les obligations internationales assumées par notre pays, il y a celle de fournir une assistance à chaque naufragé, sans distinction sur la base de sa santé. Le dit décret est donc illégal dans la mesure où il ne permet pas il ne permet que les secours aux personnes dont la santé est précaire, contrevenant ainsi aux obligations internationales. On se raccroche à pas grand chose. Et il est 19h40, c'est l'heure de c'est la fin du canu.
Ah bah oui.
J'ai deux petites infos dans l'agenda. Une pour la semaine prochaine, à l'appel du comité de lutte de Lyon et dans la perspective des journées de grève et de manifestation du 7 et 8 mars, un rendez-vous est donné le mardi 28 février à 18h à l'annexe de l'ECG au 27 rue Salomon-Rénac dans le 7e afin de discuter du mouvement social et manger autour d'un repas à prix libre pour remplir la caisse de grève. Et samedi 25 février, donc ce samedi hein, si je ne me trompe pas, oui. Vous me regardez tous avec un air interrogé.
Est-ce que tu vas parler de la Palestine ?
Tout à fait. Donc samedi 25 février à 15h30 et jusqu'à minuit à l'illégalité, rencontre intitulée Palestine, croisement des luttes avec Monira de BDS France et Jean Stern pour la table ronde qui sera suivie d'un repas de chant et de danse avec Bassella Abdouhamed, percussionniste et chanteuse accompagnée de Claudio, joueur de oud, et Sam Dabke, une troupe de danse de Dabke, danse traditionnelle palestinienne.
Et il paraît que Monira qui va parler...
On l'a déjà interviewée ici.
Elle est... Ah ouais, tu vous la connaissez ? Bah, il paraît qu'elle est super forte, super intéressante, mais du coup vous le savez déjà.
Tout à fait. Et je me rends compte que j'ai pas noté l'adresse de l'illégalité. Et c'est...
C'est à Villeurbanne.
Ouais, c'est à Villeurbanne et c'est 6 rue de l'égalité à Villeurbanne. Voilà. On vous laisse avec soit un quart d'heure de bande continue et ensuite vous retrouvez...
Bon courage du coup.
Idée noire, ça suffit de maltraiter ces bandes continues, il y en a des très bien. Et sinon, donc soit un quart d'heure, soit une heure et quart, suivant si l'émission Idée noire prend la suite ou pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Ah, faut que je mette le générique de fin.
Ouais, ça se fait.
Radio Canu, c'est
voilà.
Le Canu Info, c'est le Canu Info, c'est le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
rebelles des radios.